Quatrième partie, le roi des Aulnes. Samedi 24 décembre. Chapitre 16, la nuit américaine. Il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil inutile. Simone de Beauvoir. 1. 4 heures du matin, et Madeleine pétait la forme. Elle avait dormi 10 heures d'affilée du plus réparateur des sommeils. Lourd, profond, expurgé de tous les cauchemars et de tous les fantômes. Sa douleur à l'abdomen n'avait pas disparu, mais elle était moins vive, supportable même. Madeleine se leva, tira les rideaux pour apercevoir Greenwich Street, déjà animée, puis plus loin, entre deux immeubles, le courant ténébreux et glacé de l'Hudson. Elle jeta un œil à son portable. 3 appels en absence de Bernard Bénédic. Que lui voulait le galeriste? En tout cas, il allait devoir attendre. Pour l'instant, elle avait faim. Son jean, un t-shirt, un hoodie, son blouson. En sortant de sa chambre, elle trouva sur le palier une enveloppe cachetée. Elle l'ouvrit dans l'ascenseur. Sur 3 pages, Coutances avait pris la peine de lui rédiger un compte-rendu manuscrit de sa visite à Isabella, la cousine d'Adriano Sotomayor, et lui demandait de l'appeler dès que possible pour convenir d'un endroit où se retrouver. Bien décidée à ne rien faire sans avoir avalé son petit déjeuner, elle remit sa lecture à plus tard et plia les feuilles avant de les glisser dans l'une de ses poches. L'hôtel n'était qu'en demi-sommeil. En ce matin du 24 décembre, des clients en transit à New York étaient déjà sur le départ. À la réception, 2 jeunes bagagistes s'affairaient à charger les coffres de plusieurs véhicules, certains en partance pour l'aéroport, d'autres pour une station de ski des Appalaches. Madeleine quitta le lobby pour le salon du rez-de-chaussée où crépitait un feu dans la cheminée. Éclairé d'une lumière diffuse, le salon du Bridge Club ressemblait à un vieux club anglais. Canapé Chesterfield et fauteuils capitonnés, bibliothèque en acajou, masques africains, tête d'animaux sauvages naturalisés. Elle s'installa dans une Globe Chair, un fauteuil ballon dont les lignes très 60s détonnaient avec le reste de la décoration. Une sorte de groom en livrée blanche surgit de derrière le sapin de Noël monumental qui trônait au centre de la pièce. Madeleine jeta un coup d'œil au menu et commanda un thé noir et de la ricotta au lait de chèvre avec des crostini. Après tout, il était plus de 10 heures du matin à Paris et à Madrid. Malgré les flammes qui pétillaient dans l'âtre à 1 mètre à peine devant elle, la jeune femme avait froid. Elle s'empara d'un plaid en laine écrue et s'en servit comme d'un châle. « Une mémé au coin du feu, voilà ce que je suis devenue », pensa-t-elle en soupirant. Décidément, elle n'avait plus aucune grinta, plus aucun feu sacré. Elle se remémora l'article du New York Times Magazine que lui avait montré Coutances à Madrid. Où était passée cette jeune femme volontaire, battante et combattante, qui ne s'économisait pas et ne laissait jamais tomber le morceau? Elle revoyait mentalement la photo qui illustrait l'article. Un visage plus affûté, des traits déterminés, un regard toujours aux aguets. Cette Madeleine-là s'était évaporée. Elle repensa à ses enquêtes les plus marquantes, à cette sensation folle, enivrante qui s'emparait de vous lorsque vous sauviez la vie de quelqu'un. Ce bref sentiment d'euphorie qui vous saisissait et vous donnait l'impression pendant un instant de racheter à vous seul tous les travers de l'humanité. Elle n'avait rien connu de plus fort dans sa vie. Elle repensa à la petite Alice Dixon, qu'elle avait retrouvée vivante après des années d'enquête, mais qu'elle avait perdue de vue depuis. Avant elle, il y avait eu un autre enfant, Matthew Pierce, qu'elle avait arraché des griffes d'un prédateur. Perdu de vue également. Même quand les enquêtes se terminaient bien, l'euphorie laissait rapidement la place à un désenchantement. Une prise de conscience brutale que, s'il lui devait la vie, ses enfants n'étaient pas les siens. Une descente qui appelait très vite le besoin d'une autre enquête. Une nouvelle injection d'adrénaline comme antidépresseur. Le serpent qui se mordait la queue indéfiniment. 2. Le groom réapparut avec le plateau de petit-déjeuner qu'il posa sur la table basse devant Madeleine. Elle avala ses tartines et son thé sous le regard vide d'une statue précolombienne qui montait la garde sur une étagère en face d'elle. La réplique du fétiche de l'oreille cassée, Madeleine n'arrivait toujours pas à croire ce que lui avait raconté Coutances. Ou plutôt, elle ne voulait pas en accepter les implications. Les faits pourtant n'étaient guère contestables. Persuadé que son fils était encore en vie, Sean Lawrence était tombé sur un article évoquant certaines de ses enquêtes précédentes. Il s'était alors convaincu que Madeleine était en mesure de l'aider. Il avait téléphoné sans succès au Cold Case Squad du NYPD. Puis, il avait profité de son dernier voyage à New York pour venir la voir en chair et en os. Là, il avait été terrassé par une attaque cardiaque et s'était écroulé en plein milieu de la 103e rue, à quelques dizaines de mètres de son bureau. Sauf que Madeleine n'avait rien su de tout ça. Il y a un an, à la même époque, elle ne travaillait déjà plus au NYPD. Elle n'était même plus à New York. Les symptômes de sa dépression avaient débuté au milieu de l'automne. Fin novembre, elle avait donné sa démission et était rentrée en Angleterre. À quoi bon refaire le film? Même si elle avait pu rencontrer Lawrence, ça n'aurait strictement rien changé. Pas plus qu'aujourd'hui, elle n'aurait cru un mot de ses affirmations. Pas plus qu'aujourd'hui, elle n'aurait pu l'aider. Elle n'était pas chargée de cette affaire et n'avait aucun moyen d'enquêter. Alors qu'elle terminait sa ricotta, elle porta la main à son abdomen. Bordel, la douleur s'était réveillée. Son ventre était gonflé comme si elle venait de prendre 5 kilos en 2 minutes. Discrètement, elle relâcha un cran de sa ceinture et attrapa dans son blouson un comprimé de paracétamol. Ses pensées revinrent vers Gaspard. Même si elle prétendait le contraire devant lui, Coutances l'avait bluffé. Elle ne le suivait pas du tout dans ses conclusions, mais elle devait lui reconnaître une certaine obstination et une véritable intelligence. Avec peu de moyens, il avait soulevé des questions pertinentes et trouvé des débuts d'indices qui avaient visiblement échappé à des enquêteurs plus aguerris. Elle sortit de sa poche le compte-rendu, fouillé et exhaustif, qu'il avait rédigé à son intention. 3 feuilles recto-verso remplies avec une application d'écolier d'une belle écriture presque féminine, arrondie avec de grosses boucles bienveillantes, qui cadraient mal avec la personnalité du dramaturge. À la première lecture, Madeleine se demanda quel crédit il fallait accorder à l'affirmation selon laquelle Sean était reparti de chez Isabella avec des documents appartenant à Sotomayor. Si c'était le cas, ne les aurait-on pas retrouvés? Près du corps de Lawrence ou dans sa chambre d'hôtel? Après un instant de réflexion, elle composa le numéro de Bernard Bénédic. Le galeriste n'attendit pas plusieurs sonneries pour décrocher, et il était en colère.
« Mademoiselle Green, vous n'avez aucune parole. »«
De quoi parlez-vous ? » ?»«
Vous le savez très bien, du 3e tableau, celui que vous avez gardé pour vous. Vous m'avez bien entubé avec... »«
Je ne comprends rien à ce que vous dites !» le coupa-t-elle. « J'avais demandé à Monsieur Coutances de vous restituer les 3 toiles. »«
Il ne m'en a fait livrer que 2. »
Elle soupira. Coutances s'était bien gardé de la prévenir. « Je vais voir avec lui ce qui s'est passé, » promit-elle. « En attendant, éclairez-moi sur quelque chose. Vous m'aviez bien dit qu'à la mort de Lawrence, vous aviez récupéré ses affaires à son hôtel. »«
Exact, des fringues et son agenda. »«
Au Bridge Club à Tribeca. » »«
Oui, j'ai même insisté pour aller fouiller moi-même sa chambre. » »«
Vous ne vous souvenez plus du numéro ?»«
Vous plaisantez, ça date d'il y a un an. »
Une autre idée la traversa. Lorsque les ambulanciers ont essayé de réanimer Lawrence sur la 103e rue, vous savez s'ils ont trouvé des effets personnels sur lui? Bénédic fut affirmatif.
Il n'avait rien à part son portefeuille.
Vous n'avez jamais entendu parler d'un cartable ou d'un sac en cuir? Un long silence.
Sean possédait un sac besace qui ne le quittait jamais, c'est vrai. Un vieux modèle Berluti que lui avait offert sa femme. Je ne sais pas du tout où il est passé. Pourquoi cette question? Vous continuez à enquêter? Et c'est à cause de l'article du Parisien?
Quel article?
Vous verrez par vous-même. En attendant, j'exige que vous me restituiez la dernière partie du triptyque.
Je crois que vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit, s'agaça Madeleine en lui raccrochant au nez. Elle se massa les paupières en essayant de reprendre le fil de son raisonnement. Si l'histoire qu'Isabella avait racontée à Coutances était vraie, il s'était passé moins de 24 heures entre le moment où Sean avait récupéré les documents chez Sotomayor et son décès. Mais c'était suffisant pour que le peintre ait eu le temps de les remettre à quelqu'un. Ou alors, il avait tout simplement planqué sa sacoche. Ce comportement correspondait assez à ce qu'elle imaginait des derniers jours de Lorenz. Un être illuminé, perturbé, paranoïaque. Mais planqué où? Sean n'avait plus de repères à New York. Plus de famille, plus d'amis, plus de maison. Restait une solution, la plus simple. Sean avait caché les documents dans sa chambre d'hôtel. Tentez quelque chose. Maintenant. Madeline se leva pour se diriger vers le lobby. Derrière l'imposant comptoir en bois trônait Lorraine Ashford, comme l'indiquait son badge. Jeune femme, démesurément grande et démesurément belle, qui semblait incarner à elle seule le standing et le raffinement du Bridge Club. Bonjour, madame.
Bonjour. Mademoiselle Green, de la chambre 31, se présenta Madeline. Que puis-je faire pour vous?
Le ton de Lorraine était poli mais pas chaleureux. Elle portait une robe bleu sombre étourdissante qui aurait eu davantage sa place sur un podium de la Fashion Week que dans le lobby d'un hôtel. Madeline pensa au costume de la Reine de la Nuit dans une représentation de la flûte enchantée qu'elle avait vue à Covent Garden.
Il y a un an, la semaine du 19 décembre, le peintre Sean Lorenz est descendu dans votre hôtel.
« C'est bien possible, » dit-elle sans daigner lever la tête de son écran.
« J'aimerais savoir quelle chambre il occupait. »
« Madame, je ne suis pas en mesure de délivrer ce genre d'informations. »
Lorraine détachait chaque syllabe. De près, sa coiffure paraissait incroyablement sophistiquée, à base de torsades et de couronnes de tresses retenues par des pinces et des barrettes incrustées de brillants.
« Je comprends, » admit Madeline.
En réalité, elle ne comprenait rien du tout. Elle se sentit même traversée d'une pulsion agressive. Attraper la Reine de la Nuit par les cheveux et lui exploser le crâne sur l'écran de son ordinateur. Elle battit en retraite et sortit sur le trottoir pour fumer une cigarette. Alors qu'un bagagiste lui ouvrait la grande porte à battants, le froid la saisit brutalement.
« Le prix à payer, » pensa-t-elle en cherchant son briquet dans toutes ses poches.
Dans la nuit polaire, elle sentit son téléphone vibrer. Deux sonneries pour deux SMS qui arrivaient en rafale. Le premier était un long message de Luisa, l'infirmière espagnole de l'hôpital de fertilité qui la prévenait que 16 des ovocytes qu'on lui avait ponctionnés étaient utilisables. D'après Luisa, le biologiste de la clinique proposait d'en féconder la moitié avec le sperme du donneur anonyme et de congeler l'autre partie. Madeline donna son accord et en profita pour mentionner les douleurs qui l'assaillaient. L'infirmière répondit du tac au tac. « C'est peut-être une infection ou une hyperstimulation. Passe nous voir à la clinique. »«
Je ne peux pas, » écrivit Madeline. « Je ne suis pas à Madrid. »«
Où es-tu ? » demanda Luisa. Madeline préféra ne pas répondre. Le deuxième SMS augurait une bonne nouvelle. Il provenait de Dominique Wu. « Salut Madeline. Si tu es dans les parages, passe me voir vers 8h à Hoboken Park. » Elle saisit la balle au bond. « Salut Dominique. Déjà debout ?»«
Je suis en route vers la salle de sport, » répondit l'agent du FBI.
Madeline leva les yeux au ciel. Elle avait lu quelque part que dès 5h du matin, New York connaissait une très forte augmentation de sa consommation d'électricité, due en partie à l'activité des salles de fitness que les gens fréquentaient de plus en plus tôt.
« Tu as des infos pour moi ?»«
Pas au téléphone, Madeline. » Comprenant qu'elle n'obtiendrait rien de plus, elle mit fin à la conversation. « Ok, à tout à l'heure. » Sa cigarette entre les lèvres, elle dut reconnaître qu'elle avait perdu son briquet. Elle allait faire demi-tour lorsqu'une longue flamme jaillit devant ses yeux, trouant un bref instant le froid glacial du petit matin.
« Je l'ai ramassé dans le salon. » « Vous l'aviez laissé tomber dans votre fauteuil, » annonça le jeune bagagiste en approchant la flamme de son visage.
Madeline alluma sa clope en le remerciant d'un hochement de tête. Le gamin n'avait pas 20 ans. Elle l'avait déjà repéré un peu plus tôt. Regard clair, mèche rebelle, sourire enjôleur et mutin qui devait rendre folles les filles.
« Sean Lorenz était dans la chambre 41, » annonça-t-il en lui rendant son zippo.
3. Madeline crut d'abord qu'elle avait mal entendu et lui demanda de répéter.
« Le peintre logeait dans la suite 41, » déclara le bagagiste. « Une chambre d'angle, semblable à celle que vous occupez, mais située un étage au-dessus.
Comment tu sais ça, toi ?
J'ai seulement tendu l'oreille. Hier soir, à la réception, Monsieur Coutances a posé la même question que vous à Lorraine, et c'est ce qu'elle lui a répondu.
Madeleine n'arrivait pas à le croire. Coutances avait réussi à faire parler l'autre pimbèche de l'accueil. Bon sang !
Elle imaginait bien la scène. Avec sa veste smalto, son regard de cocker et ses effluves de lavande, Coutances avait dû sortir à la jeunette un pathétique numéro de charme, entre vieux beaux bienveillants et battleurs sur leur tour. Et ça avait marché.
Il lui a demandé autre chose ?
Il a essayé de visiter la chambre, mais Lorraine n'a pas accepté.
Madeleine ne put s'empêcher d'éprouver une satisfaction mesquine. Le pouvoir d'attraction de Coutances n'était pas sans limite.
« Comment t'appelles-tu ? »
« Kyle, » répondit le bagagiste.
« Tu travailles ici depuis longtemps ? »
« Depuis un an et demi, mais seulement le week-end et pendant les vacances. »
« Le reste du temps, tu es à la fac ?»«
Ouais, à NYU. »
Le gamin avait un regard vert d'eau qui vous transperçait et un sourire pétillant plus luciférien que bienveillant.
L'été dernier, une partie du quatrième étage a été inondée,
relata-t-il comme si Madeleine lui avait posé une question.
Les grandes eaux, vraiment.
Malgré son air juvénile, Kyle la mettait mal à l'aise. Une intelligence vive brillait dans ses yeux d'olivine, mais il y flottait comme un air de menace.
Finalement, c'était la clim qui merdait, continua-t-il. Un tuyau d'évacuation qui s'était bouché. Il a fallu refaire les plafonds de plusieurs chambres, dont la 41.
Pourquoi tu me racontes ça ?
Les travaux ont duré 3 semaines.
Un coup de bol !
J'étais là quand les maçons ont trouvé quelque chose dans l'un des faux plafonds. Un sac besace en cuir. Alors je me suis proposé pour le rapporter à la réception.
Mais tu l'as gardé pour toi, devina Madeleine.
Ouais.
Ne pas perdre le fil. Une autre partie venait de débuter. À présent, derrière la séduction candide du jeune homme, elle devinait autre chose. Du calcul, de la perversité, quelque chose de glaçant.
C'était vraiment un très beau sac, même s'il était usé jusqu'à la corde, avec des traces de peinture.
Mais c'est ce que veulent les gens aujourd'hui. Vous avez remarqué ? Plus personne n'aime le neuf. Comme si l'avenir, c'était le passé.
Il laissa sa formule faire son effet.
J'en ai tiré $900 sur eBay. La besace est partie tout de suite. Je savais à qui elle appartenait parce que le nom du propriétaire était brodé à l'intérieur, comme s'il l'avait reçu en cadeau.
Tu as ouvert le sac ?
J'avais déjà entendu parler de Sean Lawrence, mais pour être honnête, je ne connaissais pas ses peintures. Alors je suis allé voir certaines de ses toiles au Whitney Museum et j'ai été très surpris. Elle nous déstabilise parce qu'elle
ne te croit pas obligé de me réciter ce que tu as lu sur Wikipédia,
l'interrompit-elle.
Contente-toi de me dire ce que tu as trouvé dans la besace.
Si Kyle avait été vexé, il ne le montra pas. Il répondit de sa voix faussement candide.
Des trucs bizarres, tellement flippants que je savais qu'un jour ou l'autre quelqu'un s'y intéresserait. Alors hier, quand j'ai entendu Monsieur Coutances, ça a fait tilt dans ma tête. Et je suis retourné chez moi pour récupérer ça.
Tel un flasheur ou un vendeur de montres à la sauvette, il ouvrit sa barbe or matelassée pour dévoiler une épaisse pochette en carton laminé.
Donne-moi ce truc, Kyle. J'enquête avec Coutances. Lui et moi, c'est pareil.
Oui, c'est pareil.
Donc c'est $1,000. C'est la somme que je comptais lui réclamer.
Je suis flic, dit-elle.
Mais il en fallait plus pour impressionner Kyle.
Mon père aussi est flic.
Elle hésita une seconde. L'une des options était de l'attraper à la gorge et de lui prendre son dossier de force. Physiquement, elle s'en sentait capable. Mais quelque chose en Kyle lui faisait vraiment peur.
Le diable habite certaines personnes, avait coutume de dire sa grand-mère.
Si c'était vrai, Kyle était de celle-là et tout ce qu'elle tenterait contre lui se retournerait contre elle.
Je n'ai pas $1,000 sur moi.
Il y a un distributeur à moins de 30 mètres,
fit-il remarquer tout sourire en désignant les lumières du Duane Reade de l'autre côté de la rue. Avec son mégot, Madeleine s'alluma une autre cigarette et capitula. Ce gamin n'était pas un gamin ordinaire. C'était un instrument du mal.
Ok, attends-moi là.
Elle traversa Greenwich Street et marcha jusqu'au distributeur automatique de billets situé dans la galerie du drugstore. Devant l'appareil,
Elle se demanda si sa carte de crédit lui permettrait de retirer autant de liquide. Heureusement, quand elle eut composé son code, les billets de $50 sortirent sans broncher. Elle revint jusqu'à la devanture de l'hôtel en se disant que tout ça était finalement un peu trop facile. Elle ne croyait pas aux cadeaux qui tombaient du ciel. Elle traversait la rue lorsque son portable vibra. Bénédicte. Un SMS qui ne contenait rien d'autre qu'un lien hypertexte vers un article du Parisien. Sur son iPhone, même sans ouvrir le lien, le chapeau de l'article apparut. Mort tragique de Pénélope Kurkowski, mannequin vedette des années 1990 et égérie du peintre Sean Lawrence. Merde. Alors que dans sa tête, plusieurs informations se télescopaient, Kyle la pressa. Vous avez l'argent ? Le gamin avait fini son service et enfourché son vélo à pignon fixe. Il prit les billets et les fourra dans sa poche avant de lui tendre la pochette cartonnée. En quelques coups de pédale, il disparut dans la nuit. Un instant, Madeline pensa qu'il l'avait menée en bateau et qu'elle venait de se faire rouler comme une bleue. Mais ce n'était pas le cas. Elle ouvrit la pochette et commença à lire son contenu à la lueur des lampadaires. Et c'est ainsi qu'elle rencontra le roi des Aulnes.